Il est 17h30, vous écoutez La vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La vie en BD, une édition spéciale de cette émission, de votre émission sur la bande dessinée, l'illustration, l'animation. Édition spéciale puisqu'on va se consacrer entièrement à cet événement incontournable dans la sphère du 9e art qui est le Festival de la bande dessinée d'Angoulême, édition 2012. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 et également avec vous jusqu'à 18h30 pour cette émission spéciale, mais notre collaborateur qui est également directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, Thomas-Louis Côté, bonjour.
Bonjour Raymond.
Et il faut dire aussi, pour mettre les gens en contexte, tu reviens d'Angoulême, tu as été faire un petit tour là-bas et c'était pas la première fois, ça fait quoi déjà, 4 fois, 5 fois que tu vas faire un tour à Angoulême là?
C'était la 4e fois que j'y allais, donc le 39e Festival de la bande dessinée d'Angoulême qui s'est déroulé du 26 au 29 janvier dernier. Donc c'est un 4 jours intense de bande dessinée, de rencontres et de contacts aussi là-bas. Là. Donc c'est la 4e fois que je vivais l'expérience, puis à chaque fois, c'est aussi stimulant qu'épuisant.
Et il faut dire, en fait, peut-être d'ailleurs, on peut spécifier pourquoi on en fait tout un plat ici à La Vie en BD, c'est parce qu'Angoulême, c'est tout un plat aussi dans l'univers de la bande dessinée, c'est un peu le festival, l'équivalent du festival de Cannes, peut-être, ce que Cannes est au cinéma, Angoulême l'est à la BD. Est-ce que je dis vrai en disant ça?
Oui, mais dans le fond, le festival d'Angoulême est vraiment le plus gros festival de bande dessinée en Europe. Donc, on parle d'un événement qui attire en 4 jours 200 000 visiteurs, selon les organisateurs. Mais vraiment,
c'est comme sur les plaines, il y en a un peu moins.
Peut-être, mais il y a du monde, c'est épouvantable. On parle d'au-dessus de 1500 auteurs présents, 150 éditeurs. Il y a vraiment, c'est la plus grosse bibliothèque et la plus grosse librairie de bande dessinée qui peut pas y avoir. Là.
Et pour l'ambiance, en fait, ça se passe pas comme au Salon du Livre ici, c'est dans le centre des congrès et c'est tout. Dans ce cas-là, dans le cadre d'Angoulême, c'est partout, c'est dans les rues, c'est dans les secteurs, c'est pas concentré en un endroit un peu caché.
Exactement. Mais Angoulême n'est pas une grosse ville à la base, c'est une ville de 45 000 habitants, donc une ville qui est juchée, qui est une autre ville et une basse ville, si on veut. Donc la vieille partie d'Angoulême est sur un plateau entouré de remparts, puis la ville plus récente est dans le bas. Donc, cette ville-là est vraiment, c'est pas une grosse ville, et c'est vraiment un événement qui habite la ville durant 4 jours. On parle d'expositions à gauche et à droite dans les églises, dans les tentes, les expositions officielles et les expositions qui sont hors programmation, il y en a tout plein. Des commerces qui se transforment en lieu d'exposition bande dessinée, il y a aussi un off festival qui est immense. Et la particularité, c'est aussi, comme tu disais, c'est pas comme un salon du livre standard, c'est-à-dire que la plupart des lieux de diffusion des exposants sont dans des tentes. Donc, c'est des très grandes tentes, ce qu'ils appellent des bulles, dans lesquelles sont répartis à différents endroits dans le plateau d'Angoulême, si on veut, les exposants.
Et tu y étais, Thomas-Louis Côté, il y a d'autres Québécois également qui étaient, à chaque année, il y a des Québécois qui y sont, il y aura quelques auteurs justement qui seront avec nous au cours de l'émission pour parler un peu de leur expérience, leur regard sur le festival, l'édition de cette année, mais également leur participation passée. Notamment Viviane qui y va depuis déjà un bout de temps, qui a fait une résidence à la Maison des auteurs, qui a vécu à différents degrés le festival également, puisque c'est
la ville.
Et la ville, effectivement, on aura l'occasion d'en parler avec elle en deuxième partie. Il y aura également Jean-Sébastien Bérubé, auteur de Radisson, qui, lui, y est allé cette année, c'était sa 3e fois. Il a été une fois en tant qu'amateur de BD, il a été 2 fois en tant qu'auteur. Et également, c'est un peu incontournable quand on parle d'Angoulême, puisque ça a été, je crois, le premier Québécois à remporter un prix. Lors de cet événement-là, il s'agit de Michel Rabagliati. C'est sa deuxième, troisième, quatrième participation cette année, après avoir gagné l'édition de l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant.
Il y a deux ans. Il y a deux ans où il a remporté le prix du public.
Avec Paul à Québec.
Exact.
Voilà. Alors, une belle récompense. Alors, on aura l'occasion de revenir avec lui également tout à l'heure. Peut-être une mention rapide, les gagnants du festival, notamment en fait, on parle du Fauve Jeunesse qui a été attribué à Zombilennium tome 2, le Fauve Patrimoine, la dynastie Donald Duck de Karl Marx, Fauve Polar, intrus à l'étrange de Simon Hureau, Révélation, ta mère, la pute de Gilles Rochier. Sinon, également, le Fauve d'or, prix du meilleur album qui a été donné à Chronique de Jérusalem de Guy Delisle.
Et c'est non négligeable. C'est non négligeable. On en a entendu parler beaucoup.
Et de plus en plus, en fait, d'album en album, il y a un buzz autour de Lille. Et d'ailleurs, en fait, justement, est-ce que Thomas Louis, il y a disons, un certain star system ou certains auteurs, selon les années, selon le buzz, selon ce qu'on en entend parler, qui attire plus, qui génère plus d'attention à Angoulême que d'autres?
Bien, c'est certain qu'au niveau des auteurs qui sont présents, comme je disais tantôt, il y a à peu près 1300, 1500 auteurs présents lors de l'événement. Donc, on peut croiser dans la rue des gens comme Bilal, des gens comme Giraud, des grands noms de la bande dessinée. Donc, il y a effectivement, le star system de la bande dessinée est là. Quand on parle de gens comme Michel Rabagliati, il y avait vraiment un buzz autour de lui l'année dernière. Cette année encore, ça s'est poursuivi. Il a fait, entre autres, la couverture de L'Express, qui est un magazine français. Il y avait une illustration de lui. Guy Delisle, même chose, on en a entendu parler beaucoup, que ce soit dans les entrevues, parce qu'une des particularités aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'entrevues d'auteurs à différents endroits dans l'événement, et plusieurs sont retransmis dans les rues, donc avec un système de haut-parleurs. Donc, encore là, partout où tu te promènes, et il y a la bande dessinée est présente. Là.
Et ça permet de référer, en fait, on l'a mis sur le Facebook, d'ailleurs, de La Vie en BD, Guy Delisle, qui a fait quelques dessins autour de sa participation au festival, et qui se met notamment en scène avec Rabagliati marchant dans la rue, et entendre quelqu'un en entrevue qui parle de la série Paul. Et finalement, Rabagliati se rend compte qu'il marche en écoutant une entrevue que lui-même a accordée à l'autre
et
moment.
Et pour l'anecdote, c'est qu'il fait référence dans ce strip-là, dans le fond, à une pièce de Charlebois qui a été mise et j'ai accroché sur la même pièce ailleurs au festival. Donc, j'ai entendu ce bout d'entrevue-là. Donc, j'ai vraiment ri quand j'ai vu le strip qui a été diffusé. Là.
Et Thomas Louis, est-ce qu'il y a des éléments, peut-être, si on prend quelques instants pour dresser une première partie de bilan, des éléments qui t'ont happé dans l'édition 2012, qui ont attiré ton attention?
Ben, si on regarde au niveau des expositions, encore là, les expositions au festival sont nombreuses. Il y en a quelques-unes que j'ai pas eu le temps de voir pleinement, mais j'ai vu deux très belles expositions qui étaient à la Cité de la bande dessinée, au Musée de la bande dessinée, qui est un lieu permanent, dans le fond, de diffusion de la bande dessinée, qui est à Angoulême. Une superbe rétrospective de Art Spiegelman sur son travail. Je crois que c'est une des premières fois qu'autant de pièces de Art Spiegelman étaient réunies dans une exposition. Je pense que c'était peut-être même la première exposition rétrospective de Art Spiegelman. Et c'était superbe. Il y en avait vraiment beaucoup. On était soufflé dans le fond par la quantité et la qualité de ce qu'il y avait. Il y avait aussi à la Cité une très belle exposition sur l'histoire de la bande dessinée, donc qui était le musée privé de Art Spiegelman. Le musée de la bande dessinée présente une exposition qui dresse un bon portrait de l'histoire de la bande dessinée et ils ont demandé cette année à Art Spiegelman de revisiter cette exposition-là. Donc, celui-ci a fait des démarches auprès d'institutions et de collectionneurs aux États-Unis et ailleurs et même pigé dans sa propre collection pour aller chercher un historique de la bande dessinée mais qui intégrait aussi le côté américain. Donc, tout ça est présenté avec des documents audio-vidéo, mais aussi en planches originales, donc une collection hallucinante de planches avec des choses comme Art Spiegelman, bien sûr, mais Calvin and Hobbes, dont on parlait la dernière fois que je suis venu, Winsor McCay, de superbes planches, mais aussi des choses de Topfer, de Calvo, des vieux auteurs de bandes dessinées européens dont on entend moins parler maintenant, mais qui ont fait de très belles choses.
Donc, en fait, ça fait réaliser à quel point c'est pas simplement des kiosques avec des livres, mais il y a l'univers de la BD qui met en valeur vraiment sous toutes ses facettes, et j'imagine qu'autant il doit y avoir des soirées thématiques, des spectacles, concerts, etc.
Il y a des concerts dessinés, il y a des entrevues dessinées, il y a des concerts de dessin, mais avec de l'impro, il y a plein de choses. Angoulême a une programmation qui est extrêmement généreuse. Il y a un théâtre à Angoulême qui est occupé presque tout le long, justement avec ses concerts dessinés et autres, et c'est toujours plein. Donc, c'est assez impressionnant de voir l'intérêt des gens. C'est certain qu'on parlait de 200 000 personnes qui débarquent dans une ville de 45 000 habitants. Ça fait énormément de fans de bande dessinée, mais bien qu'il y en ait une grande partie qui soit là pour la dédicace, les gens vont voir les expositions, participent aux activités. Ça fait la file le samedi pour rentrer aux expositions.
Alors, ça donne une idée de l'ambiance, d'énergie qu'il y a dans cet événement, donc lors du Festival d'Angoulême. Et on reprend un peu d'énergie, on va jaser dans quelques instants avec Michel Rabagliati pour poursuivre justement ce regard sur Angoulême et plus spécifiquement sur l'édition 2012. Voilà un peu de tango pour nous entraîner au fil de cette émission. C'est la sélection musicale de la semaine ici à La Vie en BD, la formation Ketango. On y va avec un album que vous avez offert il y a quelques temps, un répertoire qu'ils offrent toujours en spectacle, d'ailleurs, je crois. Alors ça, c'était un extrait de la pièce Étouffoir. Et on poursuit donc dans ses regards sur Angoulême 2012. Et au bout du fil, on est maintenant en compagnie de l'auteur de Paul à Québec, de Paul au Parc, Michel Rabagliati. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes de retour, vous aussi, donc, de cette nouvelle édition du Festival d'Angoulême. Et est-ce que la dynamique cette année était différente versus l'une des éditions passées où on avait beaucoup parlé de la série Paul, puisque vous aviez reçu à cette occasion-là le prix du public? Alors, comment est le retour, entre guillemets, à Angoulême, porteur d'un album, là, dans un autre contexte, au bout du compte?
Disons que la structure du festival est toujours la même. C'est certain que cette année était différente. C'était différent parce que le prix du public n'était pas en fait voté de la même façon. Il n'y avait pas ce vote internet là qu'on pouvait faire. Ça s'appelle plus d'ailleurs le prix FNAC SNCF du public. Là, c'est le prix FNAC seulement. Et puis ça c'est la structure du concours. Ça change tous les ans un petit peu. Il y a toujours un prix qui s'additionne ou un prix qui se soustrait, des nouvelles nomenclatures pour les prix, tout ça. Moi, c'est sûr que ça a donné un petit coup à mes albums. Ça donne un coup de pouce, quoi. J'arrive là-bas, on me connaît plus, ça c'est sûr, on me connaît plus que la dernière fois. Mais c'est ça, j'ai eu une très très bonne réponse. Ça a aidé. Ça c'est sûr que avoir le prix du public, ça a aidé.
Mais est-ce que ton public est différent du public que tu as ici?
Là-bas, en fait, le public du festival est différent de où je voyais. Le public du festival est à la recherche de dédicaces. C'est des enragés de la dédicace. Ce qu'on n'a peut-être pas ici. En fait, si au salon du livre, ton livre risque de se vendre pareil, même si t'es pas assis devant en train de signer. Mais là-bas, aussitôt que tu te lèves, il n'y a plus personne qui s'intéresse à tes affaires. Faut absolument que tu sois là pour signer. C'est la dédicace qui marche très fort. Les gens se déplacent de loin pour rencontrer les auteurs, avoir une signature dessinée. C'est possible, et puis ils attendent assez longtemps après ça. Là.
Donc ça devient des événements quand même assez demandants pour un auteur. Là. Vous êtes constamment sollicité.
Oui, c'est en fait, c'est ça. C'est quand tu participes au salon, tu participes au salon. Il faut que tu sois dans le salon tout le temps. Il faut que tu sois à ta table. Il faut que tu rencontres le maximum de personnes. Fait que ça peut être des signatures de 3 heures, 4 heures. Ça commence à être fatigant. Oui, c'est plus éprouvant, par exemple, que juste une signature en librairie.
Et parallèlement, la dynamique aussi, quand vous regardez les auteurs qui ne sont pas en sélection officielle cette année, Paul au Parc s'y retrouvait en sélection jeunesse, mais il y était. Est-ce que ça change aussi un peu? Est-ce que ça donne un petit coup de pouce côté notoriété de dire, regarde, je suis parmi les auteurs en sélection officielle?
Oui, c'est certain que ça aide pareil, mais c'était une erreur de le mettre là. Je m'en suis rendu compte là-bas. On avait laissé la chance au début, ils nous avaient dit on vous l'a mis en jeunesse, on était estomaqués, on dit qu'est-ce qu'il fout là, ça n'a pas de bon sens. C'est pas pour les jeunes, tout ça. Puis eux autres, ils nous avaient rétorqué. Oui, mais on le considère peut-être comme intergénérationnel. Celui-là, on s'est dit, bof, je pense pas, mais en tout cas, anyway, là, c'est là. De toute façon, il n'y a pas moyen de le retirer. Fait qu'une fois qu'il est là, il est là. Mais là-bas, je me suis bien rendu compte que c'était pas, c'était, on avait absolument raison. Je veux dire, le jury final, c'est des enfants de 9 ans. Et puis, le livre n'était pas à sa place. Les enfants ont évidemment choisi un vrai livre jeunesse en couleur avec l'action, là, ce qu'ils aiment bien, dans le fond, ce que les enfants aiment. Puis le livre était complètement passé tout droit. Là. Je regrette un peu ça. C'est un peu choquant d'être dans la mauvaise catégorie. J'aurais préféré être dans ma catégorie avec du monde de mon âge.
Et jugé par les lecteurs traditionnels au bout du compte de la série.
Ben oui, c'est ça. Ben, jugé par un lecteur d'adulte, là, je pense que ce livre-là, bon, c'est sous le couvert que c'est mon Paul au parc. C'est un petit gars qui joue du cerf-volant sur la couverture, mais à l'intérieur, il n'y a pas question de ça. C'est un peu le gag derrière chacun de mes titres. D'ailleurs, Paul à la pêche, c'est pas un gars qui va en pêche. C'est l'histoire d'une fille qui n'est pas capable de voir des enfants, tu sais, qui fait des avortements, ben, etc. Ben, c'est beaucoup plus dramatique que ça. Paul au parc, même chose. En arrière de ça, c'est un petit roman d'apprentissage sur le scoutisme. Il y a le SLQ, il y a des disputes entre la mère de Paul et puis sa belle-mère, etc. C'est des histoires familiales adultes.
Et est-ce que, aussi, parce que je lisais des commentaires sur l'édition, bon, je fais la comparaison de 2000, entre votre présence avec Paul à Québec, votre présence avec Paul au parc, ce que j'avais là quelque part, un groupe d'auteurs qui disait, bon, on va prendre une bière, on va prendre un verre, on relaxe, et pendant ce temps-là, Michel Rabagliati est happé par la machine, disparaît quelques jours. Est-ce que c'est plus convivial un peu d'aborder le festival hors un peu des invités officiels qui font un peu plus le parcours diplomatique, entre guillemets?
Oui, ça c'est vrai, parce que oui, c'est sûr, c'est que quand t'as un prix, t'as donc un étampe sur ton livre, t'as donc le prix du public, ça amène des espèces d'obligations qui sont pas vraiment invisibles, mais ça vient avec des dîners avec le ministre. J'ai dîné avec le ministre des Affaires étrangères, après ça c'était le ministre de la Culture, puis en France, quand même, c'est assez hiérarchisé, c'est assez guindé, merci aussi.
Les caméras suivent.
C'est attention, le ministre arrive, toi tu t'en vas à droite, toi tu t'en vas à gauche, on se tient les fesses serrées. C'est encore un petit peu Louis XIV, ces bars, ces réunions-là. Ça, évidemment, ça, c'est pas très le fun pour moi. C'est pas ça que j'ai envie au festival. C'est surtout de rencontrer des auteurs, parler avec des gens, rencontrer des... C'est un bel endroit pour rencontrer des auteurs qu'on voit jamais. Tu sais, j'ai rencontré Craig Thompson, des auteurs que j'aurais jamais rencontrés. Fait ça, je trouve ça charmant. Puis en plus, rencontrer des lecteurs, pour avoir des échos français, un peu de tes histoires. Tu veux savoir comment c'est reçu, comment c'est perçu. Et puis, c'est assez bon en général. La langue que j'utilise passe très bien. Je me rends compte, en fait, que... En BD ou en roman, les Français n'ont pas vraiment de problème avec le québécois. C'est au niveau du cinéma. C'est au cinéma que ça les emmerde un peu. Ils trouvent ça trop rapide, puis ça les frustre.
Mais tu as réussi à avoir une bonne visibilité médiatique aussi cette année. Je parlais tantôt de la couverture que tu as dessinée. Je crois que c'était pour l'Express.
J'ai fait ça pour le 20 minutes. Je savais pas c'est quoi, mais le 20 minutes, c'est extrêmement gros. C'est distribué partout. Partout dans le Grand Paris, c'est plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. C'est un quotidien donné, c'est un quotidien gratuit qui circule énormément. Puis ben j'ai souvent, ils m'ont fait faire la couverture de ça, puis ça a l'air que ça a bien été apprécié.
Mais le prix que tu avais gagné, le prix du public, tu avais donné en France, encore là, beaucoup de visibilité médiatique, non?
Oui, ben oui, c'est sûr. Ça, j'avais eu des interviews avec Le Figaro, France Culture, tout ça. C'est comme ça vient avec. Ça, c'est, ils sont intéressés à ça. C'est sûr que ça dure pas longtemps. Hein, c'est une espèce de feu de poudre. Là, on s'intéresse à ça. Les médias s'intéressent à la bande dessinée pendant une grosse semaine intensive. Après ça, ça disparaît un peu pendant l'année. Mais le Festival d'Angoulême, quand ça part, tout le monde en parle. L'Express, le Nouvel Obe, tout le monde a son spécial BD. Là, puis après ça, ça s'éteint. C'est un gros boom.
Mais en même temps, c'est un boom qui fait réaliser aussi à quel point j'ai l'impression que le statut de la BD en Europe est beaucoup plus enviable qu'ici au Québec, où on sent... relativement, au bout du compte, la jeunesse du médium au Québec versus l'Europe, où c'est la patrie de la BD. Là.
Ah ben c'est sûr, Mais c'est des événements comme ça, il faut y être, mais Angoulême, c'est big, là, c'est des millions d'euros, là. Ça doit coûter une beurrée à monter ça, c'est très, très gros. Les médias embarquent, ils ont des gros commanditaires, FNAC, SNCF, Électricité de France, des trucs comme ça, tout le monde embarque.
Les vedettes viennent faire leur tour aussi.
C'est très grand, ouais, c'est très gros, les ministres, tout le monde s'en mêle un peu, il faut un gros... font un gros pow-wow avec ça. Puis bon, ben les auteurs aussi, beaucoup d'auteurs disponibles parce que tous les éditeurs sont là-bas, donc c'est facile de faire venir tous les auteurs. Facile aussi aux éditeurs de se déplacer. Puis là, les gros noms sont là. C'est bien évident que c'est la BD jeunesse puis tout ça, c'est là-bas que ça se passe. Il y a une tradition d'édition, d'imprimerie, de distribution, d'auteurs aussi. C'est un métier qui est bien considéré, qui existe et puis tout ça. Puis on n'a pas honte d'en parler, là, tu sais.
Et Michel Ravagliati, en fait, dans le passage Angoulême cette année, tu parlais en fait de rencontres, de discussions. Est-ce que justement il y a des découvertes, il y a des moments forts pour toi dans ton festival, les éléments que tu dirais aux auditeurs, ben surveillez ça si ça s'en vient ici ou il faut que je vous raconte tel élément?
Bonne celle-là. Je sais pas trop. Ça se passe un peu là-bas, en fait, c'est qu'on a la chance là-bas de faire le tour d'exposition qu'on verra jamais ici. Je dirais, tu sais, j'ai vu une exposition de Fred, le créateur de Philémon, des originaux de ce gars-là. Je disais vraiment, la mâchoire tombe à terre. Il y a toutes sortes d'expositions en cours. Il y avait une exposition d'Art Spiegelman, où il y a aussi le musée de la bande dessinée à Angoulême qui est là avec une collection permanente hallucinante, avec une collection vraiment d'une richesse incroyable. Cette année, en plus, il y a un collectionneur américain, un ami d'Art Spiegelman, qui avait rajouté toutes ses pièces personnelles. C'était des trucs de Dick Tracy, de Popeye, des vieux trucs de journaux, des chefs-d'œuvre de la bande dessinée. C'est vraiment là-bas qu'il faut aller pour voir ces trucs-là. Évidemment, ben, les titres recommandés dans les sur le site Internet du festival sont des bons titres. Ça, c'est le lecteur d'ici peut s'inspirer de la compétition officielle pour ses achats parce que je pense qu'il y a énormément de bons stocks là-dedans.
Et la sélection est généreuse.
Mais par exemple, Guy Delisle qui a gagné le Grand Prix, c'est un incontournable. Je pense que ça va être très bon pour Guy qui était dans le fond pas si tant connu que ça ici. Moi, j'en ai donné beaucoup en cadeau des bandes dessinées de Guy Delisle. Les gens adorent ça, mais il mérite d'être plus connu encore ici. Puis en France également.
Ah ben Michel Ravagliati, merci beaucoup.
Merci.
Et ben bon retour.
D'accord.
Bien au revoir. Écoute de la vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Je vous rappelle, vous pouvez aller visiter notre blog, lavieenbd.wordpress.com. Raymond Poirier est toujours avec vous, toujours en compagnie de Thomas-Louis Côté du Festival La Bande dessinée francophone de Québec et toujours dans ce regard sur Angoulême 2012. Et Thomas-Louis, en fait, donc, on rappelle aux auditeurs, auditrices, tu y étais, c'était pas la première fois, mais depuis le début de l'émission, on dit, regardez, c'est énorme, donc 1500 auteurs, il y a 200 000 personnes, c'est une ville qui normalement est habité par à peu près 40 000, 42 000 personnes. Est-ce que en tant que visiteur, on réussit un peu à s'y retrouver, à se trouver une place où on est perpétuellement entraîné dans cette espèce de frénésie-là?
Bien, c'est certain que moi, j'y vais comme visiteur, mais avec un objectif assez précis, dans le fond, parce que j'y vais pour le Festival de la bande dessinée de Québec pour aller faire des rencontres. Donc, j'ai peut-être pas la même façon de le vivre qu'un visiteur peut le faire. Cependant, cette année, j'étais accompagné par un des bénévoles du festival qui était avec moi. Donc, et je peux dire que pour lui, c'était étourdissant de voir tout ça. T'as pas le temps de tout voir. T'as pas le temps de tu sais, quelqu'un qui arrive à Angoulême avec sa liste. Bon, ben, je veux voir tel auteur, tel auteur, tel auteur. Et c'est très, très, très difficile de réaliser ça. Même, je dirais, moi, avoir des rendez-vous là-bas, c'est quand même assez simple d'avoir des rendez-vous avec des gens. Que ces rendez-vous-là fonctionnent, c'est une autre chose. Que tout le monde s'il y a un tourbillon, puis à un moment donné, c'est le paradis des rendez-vous perdus, je disais souvent. Mais le public là-bas, comme Michel Ravagliati mentionnait, est très friand de dédicaces. Donc, dans les espaces d'éditeurs, il y a des fils et des fils de gens qui sont là pour des dédicaces. Il y a des tirages pour obtenir des dédicaces. Et ça se bouscule. C'est les gens se mettent leur sac.
Qu'est-ce qui fait justement l'intérêt si grand de la dédicace? C'est le plaisir d'avoir quelque chose d'unique que l'auteur a fait pour nous, pour personnaliser.
Je pense que l'intérêt varie d'une personne à l'autre. Tu as des gens pour qui c'est la rencontre de dire, bon, ben, j'ai passé quelques instants avec un auteur qui m'impressionne. D'autres, c'est la découverte. Carrément, l'auteur est là, on achète un livre, on lui fait signer, puis on essaie de discuter pour avoir la découverte. Et tu en as qui c'est vraiment des, qu'on appelle les professionnels, la dédicace, qui encore là se varie en deux. Le collectionneur qui va aller là simplement pour lui et d'autres qui vont, mais pour éventuellement marchander ces dédicaces-là.
Donc il y a de tout.
Il y a de tout. Et je dirais, les bulles ouvrent à, je crois que c'est 10h ou 11h. Et voyez-vous, où moi je résidais, parce qu'encore là, le logement est un problème à Angoulême, vu la grandeur de la ville par rapport à la capacité d'hébergement. Il y avait quelqu'un qui vient à chaque année. Et à 4h du matin, il se levait pour être sûr d'être devant les bulles à 5h, donc à peu près 5 ou 6 heures avant l'ouverture des bulles, pour être un des premiers à rentrer, pour partir à courir, aller se mettre en file, soit pour une dédicace ou pour un tirage pour une dédicace. Donc, à un moment donné, il y a une folie qui s'installe qui est assez particulière.
Effectivement, et tu parles de logement, en fait, ça m'intrigue. Est-ce qu'il y a des campings aussi autour? Est-ce qu'il y a
Il faut dire qu'à Angoulême, au mois de janvier, c'est
froid,
un peu comme un automne au mois de novembre.
Tu peux pas dehors, là.
Ben, tu peux pas coucher dehors. Donc, les hôtels centraux, comme le Mercure, qui est un point de ralliement incontournable pour les professionnels qui sont à Angoulême, on pourrait y revenir plus tard, mais cet hôtel-là, les gens réservent l'année d'avance. Donc, en date d'aujourd'hui, il serait impossible pour vous d'appeler au Mercure pour avoir une chambre pour le festival de janvier l'an prochain. Les éditeurs les réservent d'avance, le festival réserve toutes les chambres, et les gens vont loger vraiment en périphérie d'Angoulême.
Ils prennent le train pour...
Mais ce qui est vraiment populaire, c'est de loger chez l'habitant. Donc, ce que moi je fais, c'est-à-dire de prendre entente avec quelqu'un et on loge chez lui. Donc, ça permet encore là de rencontrer des Angoumois et de faire de belles rencontres.
Oui, effectivement, puis d'avoir, de bonifier d'autant l'expérience, et j'imagine qu'à la longue aussi, quand ça fait 4 fois, comme c'est ton cas, où tu y vas, ben il y a des relations qui sont nouées aussi avec certaines personnes chez qui tu as logé 1 fois, 2 fois.
Ben ça fait 3 fois là, que je retourne chez la même personne, et cette année, il y a Iris et Eva Rollin qui sont venus loger aussi au même endroit, donc on essaie de partager les bons contacts justement pour faciliter la chose aux gens.
Et en fait, Thomas-Louis, tu restes avec nous, évidemment. On est en onde jusqu'à 18h30 dans le cadre de La Vie en BD. À venir, on va en jaser avec Jean-Sébastien Bérubé. Au retour de la pause, ça va être avec Sviane. Et évidemment, on continue également d'en parler avec Thomas-Louis Côté. Alors, restez avec nous, vous aussi.
Vous êtes gestionnaire, travailleur autonome ou employé et désirez vous perfectionner? Michel Couture, formation et consultation incorporée, offre des formations dans la région de Québec dans différents domaines. Gestion du capital humain, service à la clientèle, vente et approvisionnement, communication, performance organisationnelle. Informez-vous également sur les formations en entreprise sur mesure et sur le coaching privé ou semi-privé. Pour connaître l'horaire des formations, mcformcoach.com. Contactez votre centre local d'emploi afin de savoir si vous êtes éligible à une subvention. mcformcoach.com.
Le Resto Bistrot Le Saint-James vous offre tous les jours de 11h à 22h ses spécialités de pâtes, pizza, steak et côte levée. Il vous propose aussi un vaste choix de bières pression et de vins ouverts. Profitez de son menu du midi à partir de 11,50 $. Le Saint-James, 11 10 rue Saint-Jean, à l'intérieur de l'hôtel Manoir Victoria. Funk, soul, groove, afrobeat. Le vendredi, 18h30, les rythmes de Jean-Baptiste Dulignon et Lou Bendy font exploser CKRL. C'est 100% dynamite. Le théâtre et la danse sont à l'honneur au 89.1 avec les Enfants du Paradis en compagnie de Robert Beauclerc.
89.1, Québec. CKRL.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui,
À l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418 529 3829.
De retour à la vie en BD ici à CKRL 89.1. On continue à parler d'Angoulême 2012, à revenir un peu, adresser un bilan, à jaser avec des gens qui y étaient, qui ont été y faire un tour. Et on est rejoint par Sviane, justement. Bonjour.
Salut.
Alors, Sviane, qui est, j'ai envie de dire, en fait, tu es un peu une habituée du festival. Ça fait quoi, à peu près 5 fois que tu t'y rends?
Ça fait exactement 5 fois. C'est ma 5e année cette année.
Et dans différents contextes aussi, parce que je me rappelle, en 2009, c'était à titre dans la Maison des auteurs, en résidence à la Maison des auteurs d'Angoulême.
Oui, mais en fait, c'était spécial parce qu'en 2008, c'était ma première fois. Je connaissais absolument personne. Donc, j'y allais vraiment touriste. J'étais comme si j'étais une amateur de BD. Puis là, j'ai eu comme le gros choc de « Ah, mon Dieu, le festival! » Puis l'année suivante, en 2009, j'y allais en tant qu'auteur parce que j'allais faire une résidence dans une structure qu'on appelle la Maison des auteurs. Donc, pendant 6 mois à Angoulême, j'ai passé. Puis au début, justement, ça commençait avec le festival.
Il faut dire, à la Maison des auteurs, vous êtes beaucoup, hein? C'est quoi, une vingtaine d'auteurs en même temps?
Oui, à peu près. Ben, c'est très variable, mais c'est entre 15 et 20 auteurs. C'est dans le fond des ateliers d'artistes. Ça s'appelle la Maison des auteurs, mais on ne dort pas là. C'est des ateliers, puis c'est des ateliers internationaux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde partout à travers le monde.
Et comment ça se passe, justement, la dynamique? Est-ce qu'il y a un projet spécifique sur lequel vous travaillez ou...
Ben, en fait, il faut faire une demande de résidence avec un descriptif de projet précis. Il y a un jury qui se rencontre pour décider de qui va venir, parce que c'est une structure qui est subventionnée. Je pense que c'est subventionné par la région de Poitou-Charentes, c'est pas ça. Mais c'est en sorte que l'atelier, il y a un coût pour être là, mais c'est un coût ridicule. C'est genre 150 € par année. En sorte, puis on a une structure, on a droit à un atelier, il y a des expositions qui se font, on a droit aussi à de l'aide juridique pour révision de contrat, des trucs comme ça. Donc, et c'est vraiment, vraiment très cool.
Tu avais été la deuxième Québécoise, dans le fond. Il y avait Jimmy Beaulieu qui est allé avant toi, hein, c'est ça?
Oui, mais en fait, c'est Jimmy Beaulieu qui m'a un peu plugué là. Il m'en avait parlé, puis il connaissait bien, mais il avait déjà fait une résidence, je pense, en 2004-2005. Mm-hmm. Puis, justement, parce que je le connaissais, donc je connaissais Jimmy, puis ensuite il m'a aidé à faire mon dossier, je l'ai envoyé, il m'a fait une lettre de recommandation, puis ensuite, il y a eu d'autres Québécois aussi après, il y a Pascal Girard qui est passé pas longtemps. Il y en a d'autres là, que je sais qui font des demandes.
Okay. Et j'imagine que ça va être une bonne opportunité, oui, pour travailler, pour profiter de ces services-là, de cet encadrement-là, mais aussi pour réseauter, pour rencontrer d'autres auteurs, pour élargir justement son réseau de contacts.
Ben oui, réseau de contacts, mais avant d'être des contacts, c'est aussi des potes, là.
Oui, effectivement.
Genre, je me fais des amis, des gens que j'ai envie d'avoir après, que je prends des bières. Des fois, avec d'autres auteurs, je pars des projets personnels. C'est super riche de rencontres. C'est vrai que pour les réseaux de contacts, c'est plus peut-être le festival que la Maison des auteurs en tant que tel.
Oui, parce qu'on parlait tantôt que le festival, c'était vraiment un événement qui habite la ville. Mais toi, tu as quand même vécu à Angoulême en dehors du festival. C'est quoi comme atmosphère?
C'est vraiment deux villes différentes. Pendant le festival, c'est hyper effervescent, puis il y a vraiment beaucoup de monde. Tandis que à la base, Angoulême, c'est une ville qui est quand même tranquille, il se passe pas grand-chose. Elle est reconnue même un peu pour être plate. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime de cette ville-là, c'est que c'est vraiment une ville, c'est super beau, c'est juste tout en pierre. C'est une ville où est-ce que, je sais pas, le temps se passe un peu au ralenti, tout est à proximité, donc on s'appelle, on prend des cafés super spontanément avec plein de monde.
Mais avec la cité de la bande dessinée, la Maison des auteurs, la bande dessinée est quand même très présente, même puisqu'il y a une école là aussi, je pense, de bande dessinée et d'art visuel. Donc la bande dessinée se fait sentir.
Il y a aussi une école d'animation, une école pour les jeux vidéo, je pense.
OK. Donc la bande dessinée est quand même présente tout au long de l'année. On la sent bien. Tu croises beaucoup d'auteurs de par la Maison des auteurs, mais aussi par les structures qui est autour.
Ben, il y a un bon bassin d'auteurs qui ne sont pas nécessairement à la Maison des auteurs. Je pense qu'il y a 3-4 autres ateliers qui sont dans la ville aussi. Donc, C'est sûr que quand on se promène dans la rue, on tombe sur quelqu'un qu'on connaît, qui est un auteur. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose que je trouve le fun dans cette ville-là.
Et j'imagine aussi avec la dynamique des blogs, et le tien qui roule toujours, mais qui a roulé de manière plus intensive aussi à d'autres moments côté création, que déjà des réseaux virtuels, des potes virtuels qui deviennent dans des événements comme ça des potes réels, la dynamique, la relation entre auteurs en vient à changer aussi. Puis...
Ben, c'est plus pour le festival en tant que tel, parce que les amis que je me suis fait via Internet, c'était plus des passionnés. Le monde d'Angoulême, il n'y a pas beaucoup de blogs de manière générale, ou sinon, c'est vraiment plus des relations humaines, si je peux dire. Ben, je ne vais pas dire que les autres sont bonnes non plus, mais en tout cas, c'est vraiment une dynamique super différente avec les auteurs d'Angoulême qu'avec les auteurs des autres villes que j'ai rencontrées en France.
Et moi, je suis curieux, quand tu as visité Angoulême pour la première fois, donc c'était pour tes albums publiés au Québec, et maintenant tu y vas pour des albums publiés chez Delcourt, comme cette année, ouais. Le Petit Chat. Est-ce que ça change ton expérience d'Angoulême?
Ben, c'est sûr que c'est pas la même chose, parce que depuis 5 ans, je me suis mis à connaître vraiment plus de personnes, puis là, il y a vraiment beaucoup de monde que je vois pas souvent, que je suis contente de voir, donc déjà la dynamique à la base est différente. Il y a aussi la dynamique différente du fait que maintenant, je vais dans des salades à rien, là, mais mes soupers sont payés par Delcourt. Fait que je vais dans des soupers avec des auteurs de Delcourt. C'était vraiment le fun. C'est vraiment enrichissant. J'ai fait des rencontres vraiment cool.
Et des gens que tu n'aurais pas nécessairement rencontrés dans d'autres contextes?
Non, j'ai rencontré Marc-Antoine Mathieu. J'ai jasé pendant une fois. Donc, jamais j'aurais cru que j'aserais avec Marc-Antoine Mathieu. Il est vraiment sympathique, ce gars-là. En tout cas, bref, c'est des rencontres de même, ou sinon, tu sais, il y a le très mythique Mercure.
Oui.
C'est un hôtel avec un bar dedans, puis il y a la caractéristique que le bar ferme plus tard que tous les autres bars dans le monde. Mais en tout cas, il paraît que cette année, c'était plus la même chose, mais en tout cas, c'est un peu le lieu mythique de rencontre des auteurs en fin de soirée, puis c'est là que tout se passe, en fait. C'est là que tout se passait. Je ne sais pas si on peut encore dire ça.
Oui, les rencontres se passent beaucoup là.
Les rencontres se passent là. Tu sais, moi, cette année, j'ai rencontré 2 organisateurs de festivals qui étaient un de Londres, puis un de Sydney, genre. Puis d'ailleurs, je pense que c'est Thomas Louis qui s'est présenté.
Effectivement.
C'est vraiment un bon lieu de rencontre, puis c'est relax. Puis tout le monde va du cognac chouette, puis de la bière. La bière est super chère.
Oui, mais ce qui est drôle aussi à cet endroit-là, c'est qu'il n'y a pas non plus le star system n'est pas nécessairement présent. Ça veut dire que tu vas côtoyer des grands auteurs, des auteurs moins connus dans le fond, et tout le monde jase, tout le monde, tu es capable d'avoir une discussion avec à peu près tout le monde.
C'est vrai qu'c'est un bon milieu quand même, le milieu de la BD, parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de hiérarchie entre les auteurs, si je peux m'exprimer même. Tout le monde est accessible, puis la plupart des gens sont sympathiques. Fait que, en tout cas, c'est vraiment une belle dynamique.
Et je pense que les gens qui, de toute façon, sont moins accessibles ou ont moins le goût de côtoyer ne viennent pas à un endroit comme le Mercure.
Donc,
Et parallèlement, je pense que c'est pas la première année non plus, le 24 heures de la BD d'Angoulême, ce qui semble être une étape obligée dans tes visites au festival, Viviane.
C'est rendu pas mal ce que je préfère.
Et comment ça se passe et qu'est-ce qui fait justement que c'est pour toi un des moments forts d'un passage à Angoulême?
Angoulême, le problème, je pense que les gens du Québec ne peuvent pas vraiment s'imaginer à quoi ça ressemble le festival d'Angoulême, parce que c'est comme s'il y avait un immense salon du livre qui était aux 4 coins de la ville. Il y a vraiment beaucoup de monde. Puis à un moment donné, on devient un peu saturé du monde. Puis l'avantage avec les 24 heures, c'est que je me ramasse avec une petite gang de 20-30 auteurs. Puis l'atmosphère est quand même relax. On est entre nous autres, on a une performance qu'on fait ensemble, on a du fun, puis je sais pas, vu que ça avance le festival, on n'est pas encore super fatigué puis stressé par tout le festival puis toute la saturation, la surstimulation du monde. Fait, puis en même temps, ça me permet, moi, tu sais, des idées de scénario, j'en ai souvent, puis là, c'est rare que je peux vraiment me dire, OK, je m'assois puis je fais une histoire au complet. Tu sais, souvent, ça va être échelonné sur plusieurs jours ou plusieurs semaines pour des histoires courtes. Puis là, juste faire une histoire en 24 heures, on dirait que je peux me permettre de faire quelque chose de complet puis d'avoir un résultat qui est relativement homogène, étant donné que c'est pas échelonné sur une longue période de temps. Fait que pour ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis aussi, vu que les 24 heures, c'est assez intense parce qu'on reste 24 heures sur un même projet, ça fait en sorte que des fois, il y a des solutions graphiques ou des trucs que je vais faire que j'ai pas l'habitude de faire puis que je le fais par nécessité parce que soit je suis trop fatiguée ou parce que je dois me trouver des raccourcis. Donc, ça me permet vraiment d'améliorer mes méthodes de travail à chaque fois. C'est la cinquième année que je le fais, puis à chaque fois, je me dis... c'est vraiment un des moments que je préfère dans l'année, en fait. C'est 24 heures dans le Goulême.
Est-ce que c'est une bonne façon de casser le décalage horaire aussi, vu que c'est souvent quelque chose que tu fais en arrivant?
Oui, en fait, question décalage, je pense que c'est la pire chose à faire.
On fait un petit marathon de 30 heures debout, puis...
Non, mais c'est terrible, parce que des fois, même j'arrive toujours un peu plus tôt pour me remettre du décalage horaire, mais cette année, puis la plupart des années, j'y arrive juste pas, puis je ne dors pas pendant la nuit, ce qui fait en sorte que je suis super décalquée pendant les 24 heures. Puis, c'est pour une raison mystique, après les 24 heures, je me couche, puis souvent, je ne dors pas non plus. Fait que c'est vraiment terrible. Le festival, je pense, mon festival à faire des siestes dans l'après-midi ou des trucs comme ça, c'est assez dur pour le corps et pour le sommeil. Ça vient peut-être aussi... c'est peut-être un élément qui fait en sorte qu'il y a des fois le festival, c'est vraiment difficile. Parce que je suis un peu conne de faire les 24 heures avant. Mais j'aime tellement ça, là, je peux pas m'en empêcher.
Ah ben voilà, on peut dire qu'elle a survécu Angoulême 2012.
Ouais, voilà.
Diviane, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Bonne fin de journée.
Merci, bye-bye.
Voilà, c'était Sviane, et on poursuit avec ses rencontres, donc justement, d'auteurs qui étaient de passage à Angoulême 2012. On respire quelques instants, et au retour, on poursuit la discussion avec, en bonus, Jean-Sébastien Bérubé. Et voilà toujours des petits extraits de la formation Ketango qu'on entend, donc notre sélection musicale de la semaine. Ça, c'est un petit extrait de la pièce Milonga Transitoria. Et on continue à parler d'Angoulême, on étant en fait Thomas-Louis Côté, qui coanime l'émission avec moi cette semaine, collaborateur régulier de l'émission, moi étant Raymond Poirier, et au bout du fil étant Jean-Sébastien Bérubé, l'auteur de la série Radisson. Bonjour.
Bonjour.
Et dans ton cas, Jean-Sébastien, je pense que c'était la troisième fois à Angoulême, la deuxième fois à titre d'auteur, parce que la première fois où tu y étais allé, c'était un peu à titre de visiteur. Là.
Oui, en fait, c'est la deuxième fois à Angoulême, la première fois en tant qu'auteur.
OK.
La première fois que je suis allé à Angoulême, c'est en 2006, c'est parce que j'avais gagné un concours de bande dessinée au Québec organisé par l'OFQJ. Donc, le prix du gagnant était un voyage à Angoulême. Ça, c'est en 2006, puis là, ben, je viens d'y aller en tant qu'auteur pour la première fois.
Et j'imagine la dynamique d'être pris en charge par un éditeur, dans ton cas, c'était Glénat France, puisque tu publies chez Glénat Québec, versus y aller en tant que visiteur, ça doit être quand même assez radical comme changement d'optique face au festival.
Ouais, c'est sûr. Ben, en fait, c'est sûr que quand je suis allé comme visiteur en 2006, j'avais beaucoup plus de temps libre que quand je suis allé là cette année. Ouais, en tant qu'auteur, ouais, étant pris en charge par les éditions Glénat, ben, je pense que tous les auteurs qui étaient là, invités par les éditeurs Angoulême, je je pense que tout le monde avait peu de temps libre, en fait. Là, je pense que notre horaire était organisé du matin au soir.
Et en termes d'horaire, justement, à quoi ça ressemble un peu?
Durant la journée, il y a des séances de dédicace au stand, dans mon cas, c'était au stand de Glénat. Ça, c'est durant le jour. Le soir, il y a toujours des soupers avec les éditeurs, les auteurs, des libraires, des journalistes. Ça, c'est à tous les soirs, puis ça finit très, très tard. Puis on se relève le lendemain matin très tôt pour retourner au festival pour dédicacer.
Donc, c'est un peu un marathon, là.
Ouais, c'est ça. Puis aussi, entre les séances de dédicace, des fois, il y a des entrevues là, avec les journalistes pour la radio ou des journaux.
Et justement, dans le cas de Radisson, je ne sais pas à quel point la série était connue en Europe. Donc, dans le fond, j'imagine, on y va aussi pour faire connaître la BD, pour la faire découvrir.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, Radisson est pas du tout connu en Europe. Puis... moi, je suis allé en France la première fois l'été dernier au mois de juin au Festival de bande dessinée de Lyon, puis j'ai fait découvrir la série là.
Tu avais eu un bel accueil d'ailleurs pour la série à Lyon.
Oh oui, très très beau succès. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas connu, donc les gens ils découvrent quand je suis présent dans les festivals de BD.
Oui, puis dans le cas d'un festival comme Angoulême, c'est un peu difficile encore d'être vu le nombre d'auteurs qu'il y a présents.
Oui, justement, la grande difficulté pour un auteur qui n'est pas connu, c'est d'aller au festival d'Angoulême, justement, où je pense que justement le grand nombre d'auteurs là-bas fait en sorte que je pense que les gens qui vont à ce festival-là, ils savent qui ils veulent voir. Là.
Et de quelle manière, dans le fond, on s'y prend dans ce cas-là pour vendre un peu sa salade, pour réussir à intéresser ou à avoir donné envie, dans le fond, aux gens de venir un peu découvrir ce qu'on fait? Est-ce que c'est beaucoup le travail de promotion de l'éditeur ou est-ce que l'auteur a un peu sa part de vente, entre guillemets, là, là-dedans?
Bien, en fait, l'auteur, c'est sûr que moi... Et j'ai pas de moyens là de promotion autre que ma présence sur place là. Donc, c'est sûr que quand je suis dans le festival je parle aux gens le plus possible, puis je leur dis que je suis québécois, je fais une série ici au Québec, tout ça. Mais là le travail de promotion, en fait, c'est à l'éditeur de le faire, là, ce travail-là, normalement.
Mais as-tu senti la curiosité des gens, je veux dire, au nombre de personnes qui sont là uniquement pour la bande dessinée? C'est certain que les gens sont comme ouverts à voir de nouvelles choses.
Oui, c'est sûr que, oui, les gens sont curieux parce que, les gens qui viennent me voir, en tout cas, ils se demandent tous qui est Radisson, qui est ce personnage-là. Il me pose des questions aussi sur la BD québécoise, quel genre de bande dessinée on a ici, si on lit juste des comics américains ou des mangas, ou s'il y a de la BD franco-belge ici. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions comme ça.
C'est un marché mystérieux ici. À travers ton marathon, as-tu fait de belles rencontres, des auteurs vous dédicacez tout le temps à côté d'autres auteurs, et t'es dans les soupers. Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés que tu as particulièrement appréciés?
J'ai pas dédicacé avec les mêmes auteurs à tous les jours. Je sais que il y a une journée que j'ai dédicacé à côté, puis j'étais assez impressionné parce que j'étais un gros fan de ces bandes dessinées. C'est Juan Jiménez qui fait La Case de Métabaron, puis d'autres trucs du genre. Lui, il est assez vieux, là. D'ailleurs, moi, en fait, ça m'avait impressionné d'être assez à côté de lui, mais il parlait ni anglais ni français, donc parce que lui, il est espagnol.
Et ton espagnol était rouillé?
Ouais, en fait, mon espagnol, c'est que j'en ai pas vraiment, là. L'espagnol, j'ai suivi un cours à l'université, puis c'est tout, là. Mais sinon, d'autres auteurs, j'ai tellement rencontré d'auteurs quand j'étais là que je me souviens pas de tous les noms, là.
et nécessairement en fait, c'est une belle opportunité. On en parlait avec les autres intervenants, justement, de faire des rencontres aussi, de développer bon, des contacts professionnels, des contacts amicaux aussi avec des gens qui travaillent dans le même domaine. Ou,
mm-hmm. Ouais, ben c'est intéressant dans le sens que, en tout cas, moi, ça m'a ouvert des portes pour que je puisse aller faire une résidence de création à la Maison des auteurs. Là. La Maison des auteurs, c'est un lieu qui existe à Angoulême pour que les auteurs de bande dessinée puissent aller travailler là en résidence pour c'est de 3 mois à 2 ans. Là. Donc, on choisit un peu
la durée
combien de temps on veut rester là. Puis en fait, il s'agit de soumettre sa candidature puis un comité de sélection qui choisit les projets qui sont pris pour aller là-bas. Là.
Et as-tu eu le temps de visiter un peu le festival à travers les séances de dédicaces, les rencontres et tout? As-tu été voir des expositions?
Oui, j'ai vu l'exposition de Vincent Perriot, son nouvel album qui venait juste de sortir en Angoulême qui s'appelle Dog. Je suis allé voir cette exposition-là, puis je connais Vincent parce qu'il était venu à Québec. Puis,
et Vincent qui sera à Québec à nouveau cette année en avril.
Ouais, on s'était rencontrés au Festival de la bande dessinée de Québec il y a 2 ans. Puis, c'est avec lui, je suis allé le voir, lui et son exposition. J'ai voulu aller voir l'exposition sur au stand de Taïwan, mais j'ai pas pu y aller parce qu'il y avait trop de monde. Puis, quand il y a trop de monde, il ferme les portes, puis j'avais pas le temps d'attendre.
Ouais, c'est une des problématiques.
Finalement, c'est ça. Finalement, je voulais voir aussi l'exposition d'Art Spiegelman, puis finalement, j'ai réussi juste à en voir une.
Ouais. Enfin, on s'organise avec l'horaire qu'on a en ouais. essayant de. Et ben donc, Jean-Sébastien Bégubé, merci.
Ben, ça me fait plaisir, puis à la prochaine fois.
Oui, à la prochaine.
Okay, salut.
Salut bien. Alors, voilà, c'était Jean-Sébastien Bégubé qui est auteur donc, de la série Radisson. Et on continue à parler d'Angoulême ici à La Vie en BD. Toujours à La Vie en BD ici à CKRL. On amorce la dernière ligne droite. Et Thomas-Louis Côté, j'aimerais qu'on fasse du pouce un peu sur quelque chose que Jean-Sébastien Bégubé a mentionné tout à l'heure. On parlait d'auteurs, justement, qui viennent des milieux plus hispanophones. Faut dire, en fait, on a beaucoup parlé de BD franco-belge depuis le début de l'émission, mais Angoulême, c'est...
c'est le festival international.
Il y a du monde partout. Là.
Donc, bien que ce soit pas... Il y a un événement d'ampleur similaire, sinon même plus grande, qui existe à San Diego, qui est le Comic-Con, qui est vraiment axé sur le marché anglophone et américain. Angoulême a vraiment un panorama assez large de bandes dessinées représentées. Jean-Sébastien parlait de l'exposition Taïwan. Oui. Donc, Taïwan était présent cette année avec une délégation. Il y avait une exposition. C'était la Suède qui était mise à l'honneur. Donc, il y avait aussi une exposition sur la bande dessinée suédoise. Le président d'honneur était américain. Donc, ça donne quand même une idée de du côté international de la chose. C'est certain que moi, comme représentant du festival de Québec, c'est aussi une très belle occasion de rencontrer des gens d'un peu partout. Je fais partie depuis l'année dernière d'un réseau d'événements un peu partout, ben, international mais principalement européen, mais il y a quand même des gens de Sydney qui étaient là cette année, des gens d'Angleterre, il y a des Russes, des gens de Pologne, donc des festivals d'un peu partout, parce que oui, il y a des festivals de bande dessinée à peu près à la grandeur de la planète.
Et nécessairement, on parle beaucoup de l'importance d'un réseau de contacts pour programmer des festivals musicaux, théâtraux, c'est la même chose en BD, c'est aussi une question de contact avec des éditeurs distant, contact avec des réseaux qui ont eux-mêmes accès à certains auteurs. Et c'est comme ça que, de ton côté, tu réussis, j'imagine, aussi à bonifier année après année la programmation du Festival de la BD de Québec.
Exact. Mais je veux dire, Jean-Sébastien parlait également qui est allé à Lyon au mois de juin. Donc ça, c'est dû à une rencontre aussi que j'ai faite en janvier, pas exclusivement, mais en janvier, j'ai rencontré les gens du Festival de Lyon qui avaient un désir de mettre le Québec à l'honneur. Et eux sont revenus au mois de mars au Québec pour rencontrer plein de gens. Nous, on est allés au mois de juin et ils reviendront cette année en avril avec des auteurs et aussi des représentants du festival. Donc, c'est des genres d'échanges qui se concrétisent avec des rencontres faites à Angoulême souvent. C'est la façon, c'est un endroit où tu es sûr de rencontrer la personne, où tu peux te donner rendez-vous assez facilement. Et c'est ce qui est intéressant de cet événement-là.
Et parallèlement, j'ai l'impression, en fait, qu'on parle plus d'Angoulême au Québec depuis quelques années. Est-ce qu'inversement, on parle plus du Québec à Angoulême aussi depuis quelques années, ou c'est que les médias d'ici ont réalisé l'importance de l'événement, l'importance de la présence québécoise que relativement récemment, au bout du compte?
Ce qui est assez drôle dans tout ça, c'est que le Québec a été à l'honneur à Angoulême en 2000, à une période qui n'était peut-être pas la meilleure pour que le Québec le soit. Je veux dire, il y a eu un creux dans la bande dessinée en 2000. La pente commençait à être montée. Et c'est aujourd'hui qu'on connaît des grands succès en bande dessinée, que Michel Rabagliotti ait gagné un prix il y a 2 ans, que Guy Delisle ait gagné un prix cette année partout. On parle du Québécois qui a gagné un prix, des gens comme Les Nombris. Il y a quand même le Québec, on en parle à Angoulême, oui, parce que à cause de gens comme Michel Rabagliotti ou Les Nombris et tout ça, mais reste que c'est un pays représenté parmi d'autres. Cependant, effectivement, au Québec, avec les succès qu'on a, on est très fiers de voir nos auteurs remporter un succès à l'étranger. Donc, on en parle plus d'événements comme Angoulême. Et c'est ce qui était intéressant aussi, c'est que l'événement est une très bonne vitrine pour notre bande dessinée au Québec, si on veut.
Oui, et pas depuis peu, depuis déjà quand même un certain temps, mais c'est simplement que, comme la qualité de la BD s'améliore au Québec, en forme de plus en plus de créateurs, de plus en plus de bonnes BD, donc ça devient le reflet aussi de l'amélioration de la qualité de la production ou de la quantité de production.
Exact.
Aussi.
Mais ce que j'ai trouvé particulier aussi cette année, c'est que comparativement à d'autres années où j'y étais, la plupart des auteurs québécois présents, on parle des gens de la Pastèque qui étaient là, il y avait les gens de Colosse, de La Mauvaise Tête, Jean-Sébastien qui était chez Glénat Québec, mais il y avait Les Nombris n'étaient pas là parce que Dupuis n'était pas présent cette année.
Il avait boycotté.
Et il n'y avait pas des gens comme Jean-François Bergeron, Thierry Labrosse. Et tout. Donc, les Québécois qui sont édités chez des éditeurs européens étaient moins présents cette année qu'à l'habitude.
Alors, un petit renversement qui fait qu'il y a peut-être plus de proactivité pour aller à Angoulême, pour profiter aussi de cette vitrine-là de la part des petits et moyens éditeurs québécois.
Oui, bien, c'est une très belle vitrine pour se faire connaître auprès d'un marché intéressant, là.
Alors, ben, en fait, profitons-en, comme on dit. Et le mot de la fin, peut-être en une phrase, deux phrases, qu'est-ce qu'on en retient de tout ça, Thomas-Louis?
À l'an prochain, c'est parce que c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Donc, je vous invite, si vous êtes fan de bande dessinée et vous avez le goût d'un voyage de 4 jours au mois de fin janvier, Angoulême est vraiment une destination qui est étourdissante, mais qui peut être très intéressante pour un amateur de bande dessinée.
Mais Thomas-Louis Côté, donc collaborateur ici à La Vie en BD, merci d'avoir partagé cette heure avec nous.
Ah, c'est un plaisir.
Et on se dit à bientôt.
À très bientôt.
Et nous, chers auditeurs, auditrices, on se dit à la semaine prochaine. On aura l'occasion notamment de jaser de Magasin Général avec Jean-Louis Tripp, l'un des auteurs. Alors, c'est un rendez-vous, donc vendredi prochain à compter de 17h30. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous au fil de cette heure. Et dans quelques instants, eh bien, ce sera Jean-Sébastien Grondin qui vous animera de Rythme Groove. Alors, passez une excellente soirée et un excellent week-end sur les ondes du 89.1.